RFI, grand reportage.
Stéphanie Schuller, Sylvain Biville et Michel Guéral.
RFI vous propose aujourd'hui un grand reportage au cœur de l'Amérique. Un voyage en trois étapes pour découvrir trois électorats clés qui peuvent décider de l'élection présidentielle. Dans un quart d'heure, nous rejoindrons Michel Guéral en Floride qui nous parlera du vote latino. La population hispanique est la plus importante minorité des États-Unis. Avant cela, nous découvrons avec Sylvain Biville l'univers très particulier des grandes banlieues résidentielles à Denver, dans le Colorado. Mais tout de suite, le vote des cols bleus, des ouvriers. Nous nous trouvons dans le Michigan, plus précisément à Flint, une ville qui fut le fier bastion de l'industrie automobile américaine et qui, depuis, a été véritablement sinistrée par la crise économique. Mais encore aujourd'hui, on affectionne ici le bleu de travail et les chaussures à grosses semelles. Il faut savoir que les usines et les machines font partie de l'histoire de chaque famille. À Flint, nous sommes en quelque sorte au cœur, à la racine de la culture ouvrière américaine.
Hello, is this Mrs. Brooks?
Ce matin, quelques retraités du puissant syndicat des travailleurs de l'automobile se sont retrouvés dans la salle des fêtes de Flint. Ils y exercent ce qui s'apparente à un service civique obligatoire, important en période électorale.
I am Alice Garza.
Je m'appelle Alice Garza et nous sommes en train d'appeler les membres de notre syndicat pour les encourager à aller voter. On leur fait savoir quel candidat le syndicat soutient afin de les aider à prendre une décision.
L'appel du syndicat à voter pour Barack Obama n'est pas une surprise. Depuis toujours, les ouvriers de Flint soutiennent le candidat démocrate. Sally Jager, spécialiste de l'histoire locale de la ville.
L'importance du syndicat a toujours été de contrôler la scène politique de Flint et du comté de Genesee. C'est pourquoi personne ne fait vraiment campagne à Flint. Les démocrates sont sûrs de remporter le scrutin et les républicains ne font pas d'efforts parce qu'ils savent que c'est vain.
The Republicans don't bother because they just figure it's useless.
Les ouvriers blancs ont voté massivement pour Hillary Clinton lors des primaires démocrates. Après l'investiture du candidat noir, certains d'entre eux ont été tentés par un vote républicain. Mais face à la crise économique, c'est finalement le légendaire pragmatisme des travailleurs qui l'emporte. Rick, depuis 36 ans employé chez General Motors, va donc voter pour Barack Obama.
He's Democrat.
Parce qu'il est démocrate, on ne peut pas faire autrement. Il est démocrate et on doit voter démocrate.
Donc, vous ne votez pas pour Barack Obama, mais pour le démocrate ?
Oui, je vote pour le démocrate. Je m'en fiche s'il est vert, violet ou autre chose, on doit voter démocrate.
Après une journée de travail à l'usine, les ouvriers se retrouvent au bar Le Churchill's. Au comptoir, les conversations tournent presque exclusivement autour des licenciements chez General Motors. Dans les années 90, il était encore 80 000 à travailler pour le géant de l'automobile ou l'un de ses équipementiers. Aujourd'hui, Flint ne compte plus que 14 000 actifs dans ce secteur. Pour les rescapés, le coupable est vite trouvé, la mondialisation. Marc, 48 ans.
This town was always based upon GM.
Cette ville s'est fondée sur General Motors, qui était l'employeur principal. Mais General Motors nous a laissé tomber. En Chine, ils ne savent pas faire les mêmes voitures que nous. Mais General Motors ne veut plus les produire ici. La cause de ce taux de chômage très élevé chez nous, c'est le fait que nous n'avons pas d'autres ressources industrielles sur lesquelles nous appuyer.
We have no other industrial base.
Par les temps qui courent, rien de mieux que de réchauffer son âme ouvrière auprès d'un lieu de pèlerinage symbolique, un vaste monument érigé devant le bâtiment du syndicat des travailleurs de l'automobile. Il commémore la grande grève de 1937 qui avait contraint General Motors à reconnaître le syndicat. Dwayne Zugschwert est aujourd'hui à Flint son secrétaire général.
Ce monument n'est pas seulement un hommage à ces gens qui se sont mis en grève afin de se battre pour les droits des ouvriers. Ce mouvement a aussi ouvert la voie à des négociations de toutes les grandes entreprises avec la classe ouvrière. Et cela a amélioré le niveau de vie de tout le monde. La signature de la reconnaissance du syndicat a réellement changé le cours de notre pays.
Pour les jeunes, la culture ouvrière ne veut plus dire grand-chose. L'amélioration du quotidien prend le pas sur l'entretien de la mémoire et des valeurs traditionnelles. Patrick, 23 ans et employé chez General Motors, voudrait bien se marier, mais la situation financière du jeune couple est précaire.
Après six années
d'études, ma fiancée est au chômage maintenant. Elle a toutes ses factures à payer, elle ne trouve pas de travail. C'est dur.
À Flint, le sentiment d'avoir été abandonné pendant des décennies par les gouvernements successifs à Washington est aujourd'hui omniprésent.
Cette région et cet État étaient complètement tombés dans les oubliettes. J'espère que nous aurons vraiment quelqu'un de différent, quelqu'un qui s'occupera des petites gens.
Dans une lettre ouverte, Barack Obama s'est adressé en juillet dernier à ses chers frères et sœurs du syndicat des travailleurs de l'automobile, en leur assurant son entière solidarité et sa volonté de réinvestir dans l'industrie automobile du Michigan. Pour Mark, cette lettre était, selon ses mots, une lueur d'espoir à l'horizon.
J'espère que la situation économique s'améliorera. Ça me permettra d'acquérir des choses un peu plus sympas. J'aimerais changer ma moquette et acheter quelques nouveaux meubles. Tout est assez usé chez moi.
Pour la plupart des habitants de Flint, les 8 années d'administration Bush n'ont fait qu'aggraver le drame qui s'y déroule sous leurs yeux. En 30 ans, Flint a perdu 40% de sa population. Au syndicat des travailleurs de l'automobile, Ralph, couvert de stickers de Barack Obama, s'affaire avec des pancartes pour appeler la population à voter.
C'est vraiment triste, c'est chez moi ici, je suis né ici. J'y ai passé les 75 années de ma vie et j'aime Flint. Mais on va revenir avec Obama comme président et un congrès à majorité démocrate. Nous allons faire un comeback.
C'est la fin de la première étape de notre voyage au cœur de l'Amérique avec l'École Bleue, dont le vote peut faire la différence lors de cette élection présidentielle. Partant maintenant à la rencontre d'un autre électorat courtisé, celui des grandes banlieues résidentielles. C'est un univers très particulier. Sylvain Biville à Denver nous y amène.
Boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside.
Quand on parle des banlieues aux États-Unis, il faut imaginer exactement l'inverse du sens qu'a pris ce mot en France. Ni zone sensible, ni quartier déshérité. Les banlieues américaines sont au contraire des havres de tranquillité, avec leur succession de belles maisons bien alignées, de grosses voitures garées avec précision et de pelouses soigneusement entretenues. Ces banlieues résidentielles, si bien dépeintes dans les séries télévisées, sont devenues l'incarnation du rêve américain. Et comme ce rêve, tout le monde veut le vivre, les suburbs ont tendance à se démultiplier à l'infini, de plus en plus loin des centres-villes. Naguère bastions conservateurs, les banlieues, du fait de leur très forte croissance démographique, sont désormais aussi un terrain de chasse pour les démocrates. Saddle Rock est une communauté relativement récente dans la banlieue de Denver, dans le Colorado. Christelle, jeune républicaine de 21 ans, aime décrire son quartier comme un petit paradis.
Ce sont de très grandes maisons, plus modernes. C'est très familial. Les enfants s'entendent bien, ils jouent d'une maison à l'autre selon les jours de la semaine. On a une piscine, un tennis, un terrain de basket, un golf bien sûr, avec un club. C'est seulement certaines personnes qui peuvent... Comment je peux dire sans être socialement incorrect ? C'est des gens plutôt aisés, le même type de personnes assez conservateurs, plutôt religieux et avec beaucoup d'argent. Pas tous, bien sûr, mais c'est plutôt haut de gamme.
Generally, not all families, but neighborhoods a little bit more upscale.
David, 45 ans, a toujours vécu dans cette banlieue de Denver. Il nous explique, tout en tondant sa pelouse, comment il a vu les maisons empiéter peu à peu sur les pâturages qui existaient ici.
Ça s'est construit à toute allure. Ils viennent de tout le pays pour s'installer ici, pour trouver une meilleure vie dans le Colorado. Nous avons un climat très plaisant, l'économie va toujours un peu mieux qu'ailleurs. Donc oui, c'est un lieu sûr. Le taux de criminalité est assez bas, contrairement à ce qui se passe dans les centres-villes. Ça reste une atmosphère de petite ville ici, même si on se développe très vite.
C'est comme ça tous les soirs, des couchers de soleil magnifiques. On peut voir la neige sur les montagnes au loin.
Guess he'd rather be in Colorado.
De la terrasse de sa maison de 400 mètres carrés, Ron a une vue imprenable sur les Rocheuses. Natif de l'Ohio, il est venu s'installer dans le Colorado il y a 25 ans pour échapper à un licenciement. Et il a été le témoin, lui aussi, de la croissance phénoménale des banlieues de Denver.
Il n'y avait rien ici quand on a acheté il y a 10 ans. Et maintenant, tout est construit. Les derniers arrivés viennent surtout du Texas et de Californie à cause du travail, mais aussi parce que l'immobilier était beaucoup moins cher, même si ça a pris de la valeur depuis.
Aux États-Unis, on a coutume de dire que les grandes villes votent plutôt démocrates, alors que les banlieues sont acquises aux républicains. Mais les mutations démographiques de la périphérie ont tendance à modifier cet équilibre politique. Aujourd'hui, dans les suburbs de Denver, l'affiliation des électeurs se répartit très équitablement entre républicains, démocrates et indépendants. Et avec un tiers d'indépendants, on comprend mieux pourquoi le Colorado a été si courtisé pendant cette campagne. Tom Keyes, porte-parole de John McCain dans le Colorado.
Tous ces changements démographiques ont fait glisser le Colorado de la droite vers le centre droit. On l'a vu avec le gouverneur démocrate Bill Ritter, qui a été élu en 2006 en faisant une campagne de centre droit. Mais Barack Obama, lui, ne se situe pas au centre droit. Il est à la gauche de son parti.
Barack Obama is not a center-right candidate. He is a candidate to the far. Liberal extreme of his party.
La nouvelle physionomie des banlieues ne joue pas, cependant, en faveur des républicains. Les nouveaux arrivants, originaires de Californie, font plutôt pencher la balance côté démocrate, tout comme les Américains d'origine hispanique. Nous en avons croisé plusieurs, récemment installés dans le lotissement de Saddle Rock. Et puis, de plus en plus d'indépendants se prononcent ouvertement pour Barack Obama, comme Ron, par exemple, sur sa terrasse avec vue sur les montagnes.
J'étais plutôt indépendant, mais depuis quelques années, je me sens plus démocrate. J'ai perdu une partie de ma retraite, mon fils a perdu son boulot, j'ai donc des raisons très personnelles d'être opposé à la présente administration. J'espère un changement.
Ce qui nous a frappé lors de notre immersion dans les banlieues américaines à Saddle Rock, c'est que même les républicains les plus convaincus, comme David, celui qui tondait sa pelouse et qui va voter McCain, ne cachent pas leur exaspération par rapport à l'actuel président.
Tout le monde est très anxieux, l'économie stagne, ma petite société dans le secteur automobile tourne au ralenti. Alors tout le monde attend un grand changement. On espère qu'avec un nouveau président, l'économie va s'améliorer.
Et c'est bien sur ce ras-le-bol de l'administration Bush, renforcé par la crise économique, que les démocrates comptent pour conquérir les électeurs des banlieues résidentielles. Pour Pat Wack, chef du Parti démocrate du Colorado, c'est tout le mode de vie banlieusard qui est aujourd'hui remis en cause.
Leur vie bien à l'abri dans leur maison n'est plus aussi sûre qu'avant dans les banlieues. On a eu beaucoup de saisies immobilières ici, on a beaucoup souffert de la hausse du prix de l'essence. Donc cette idée rassurante que vous pouviez vivre confortablement dans votre banlieue avec votre salaire a été mise à l'épreuve, particulièrement ces 12 derniers mois.
Après les cols bleus dans le Michigan, après les banlieues résidentielles de Denver dans le Colorado, direction maintenant la Floride pour la troisième étape de notre grand reportage au cœur de l'Amérique. Michel Guéral nous fait découvrir un autre électorat clé, la communauté hispanique.
En Floride, les Cubains ont longtemps fait office à eux seuls de communauté hispanique. Mais l'arrivée d'autres immigrants encore de langue espagnole a mis fin à cette suprématie, au point que la classe politique locale doit maintenant tenir compte de ces latinos venus d'ailleurs, qui surpassent en nombre d'électeurs les Cubains. Le Hondurien Carlos Pereira, chargé d'encourager le vote des minorités hispaniques, témoigne.
Ces dernières semaines, j'ai vu la communauté colombienne organiser un débat entre les candidats. La communauté a aussi fait débattre les deux partis, et les Vénézuéliens également. Et chacun a ses thèmes de prédilection. Pour les Honduriens, c'est le TPS, le statut qui protège ceux qui, autrement, n'ont pas de titre de séjour. Quand les Cubains sont arrivés, au début, ils ont tout de suite eu accès aux aides au logement et aux soins médicaux. Après un an seulement, ils pouvaient demander la nationalité américaine, alors que les autres hispaniques, qui payent des impôts depuis 10 ou 12 ans, n'ont droit à aucune allocation. Tout le monde n'est pas traité à égalité.
Et ces centres sud-américains qui sortent de l'ombre ne sont pas tendres envers les Cubains perçus comme des privilégiés qui votent républicains et demeurent intransigeants sur la question des sanctions contre le régime castriste. Carlos, vénézuélien, dirige une agence de voyage.
Le changement, c'est M. Obama qui l'incarne. Il y a une partie de la population à Miami qui est radicalement anticastriste et qui pense qu'après 11 présidents, il peut encore y avoir un sauveur qui jettera Castro hors de Cuba. Mais ça, ça n'existe pas. Mais ces gens ont refusé toute relation diplomatique et commerciale et Fidel est toujours là. Si on avait mis un terme à l'embargo, il y aurait eu des contacts entre les deux peuples et tout ça serait fini.
Había contacto de pueblo a pueblo y eso ya se hubiera terminado.
Sous l'effet de cette diversité croissante et de l'arrivée de nouvelles générations, la communauté cubaine de Floride est elle-même moins homogène. Paul Lopez, installé à Boca Raton, au nord de Miami, emploie dans sa chaîne de restaurants des hispaniques de tous horizons. Et ce partisan de Barack Obama ne tique pas à la pensée d'un éventuel dialogue entre son candidat et Raúl Castro.
Il faut parler aux autres. Si vous ne parlez pas, tout ça va continuer pendant des générations, peut-être même un siècle. Parler, c'est très important. Les gens de Porto Rico, de Saint-Domingue, du Guatemala, du Pérou, de la Colombie, ils sont très différents des Cubains. Je pense qu'ils ont l'esprit plus large. Prenez par exemple mes parents, avec tout ce qu'ils ont traversé. On leur a appris des choses, on les a accusés d'avoir commis des crimes, ils ont eu peur toute leur vie. Et ils ont vécu 40 ans avec tout ça. Alors ils me disent encore, surtout ne va pas à Cuba. Pendant que mes amis me disent, vas-y, tu vas passer un bon moment. Je pense que c'est une question de génération et de région aussi.
Annette Tadeo, candidate démocrate à la Chambre des représentants, confirme cette évolution des mentalités cubaines.
Il y a des Cubano-Américains qui n'apprécient pas non plus la situation actuelle dans le pays, qui n'apprécient pas les restrictions qu'on leur impose sur les voyages, qu'on les empêche d'aller voir leurs parents à Cuba, de leur envoyer de l'argent. Alors il y a aussi pas mal de Cubains qui soutiennent ma campagne. Les Cubano-Américains sont des gens formidables. Franchement, ce sont eux qui ont construit Miami. C'est vrai que beaucoup d'entre eux penchent pour les Républicains. Mais parmi ceux-là, il y en a qui me soutiennent.
Au célèbre Café Versailles de Little Havana, des groupes de vieux Cubains de Miami ressassent leur amertume. Miguel Sabeira préside une organisation anticastriste.
Nous, les Cubains, on a un sixième sens pour détecter les communistes. Ce qu'Obama dit, qu'il veut répartir les richesses et donner l'accès aux soins médicaux, quand on tient ce genre de discours, c'est qu'on est socialiste et qu'on veut suivre la voie du communisme. Nous, les Cubains, on sait identifier ces gens-là parce que ça fait 50 ans qu'on a l'expérience du communisme et des hommes malfaisants.
De comunismo y de hombres malos.
À Hialeah, grande banlieue de Miami à 94% hispanique, beaucoup de jeunes Cubains plus sensibles au thème de la campagne ambiante comme l'économie veulent tourner la page. Cheveux ras et piercing, Arturo engage dans la queue d'un bureau de vote anticipé une âpre polémique avec Maria.
Il nous faut quelqu'un de jeune, quelqu'un de pauvre qui a été pauvre comme nous et qui soutienne les peuples latinos, les afro-américains. Et qui veuille aussi aller de l'avant. C'est pour ça que je soutiens Obama. Il veut aider les pauvres, il veut que tout le monde ait de l'argent, et pas seulement les riches. Ce sont les pauvres qui ont besoin d'être aidés, parce qu'ils n'ont pas de médecin, pas de dentiste. Je ne parle pas de ça avec mes parents, parce qu'ils vivent dans le passé. Nous, nous sommes la jeunesse.
Écoute, moi quand je te parle de Cuba, ce n'est pas le Cuba dévalorisé d'aujourd'hui, c'est Cuba tel que je l'ai connu dans les années 50. C'était une merveille. C'est une trahison de voter Obama.
Quand Obama sera président, j'irai en vacances à la Havane.
Des différends familiaux que de son côté, Albert Portuondo, cubano-américain responsable d'une compagnie d'import-export, préfère dédramatiser.
Dans ma famille, j'ai un frère, il est plus âgé que moi, et il vote républicain, je vote démocrate. J'ai des amis qui votent républicain. C'est bon pour la santé de la démocratie d'avoir une discussion.
Les Cubano-Américains sont aujourd'hui 1,5 million sur quelques 4 millions d'Hispaniques en Floride. Une communauté latino qui, rapportée à l'ensemble des États-Unis, pèse 15% de la population et vote plutôt démocrate, hormis l'exception cubaine de Floride. Stéphanie Schuller, Sylvain Biville, Michel Guéral, reportage au cœur de l'Amérique et de ses électorats clés, à la réalisation Marc Minatel.
Stripes and bright stars.